Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des Portraits après notre vidéo polémique sur Georges Marchais.
Ouais, c'est comme Napoléon, ça a montré que les gens ils s'énervent jamais autant que quand on parle de mecs morts.
C'est vrai, mais aujourd'hui on va être un peu plus calme, un peu plus apaisé, on va prendre une figure un petit peu moins compliquée à gérer.
Jeanne, au secours !
On va parler de Jean-Marie Le Pen.
Oui, qui en plus lui est dans la catégorie des presque morts, enfin on n'est pas sûr. Regardez-le dans son ascenseur à vieux là, on dirait qu'ils nous l'ont embaumé comme Lénine. Ah non, c'est bon, il bouge encore, il bouge son cul pour aller devant la télé et regarder Éric Zemmour.
Il va être peut-être
on va voir le résultat.
Plus intéressant sur l'immigration.
Vous voyez, je trouve que c'est un contexte, c'est une ambiance.
Il va parler de l'immigration à un moment donné.
Jean-Marie Le Pen ne loupe jamais un numéro de Face à l'info.
Les extraits que vous venez de voir sont tirés de compléments d'enquête, une enquête extrêmement intéressante, un travail de journaliste de qualité vraiment incroyable, vraiment stylé quoi.
Là, je vois ce que tu fais là, tu fais compliment d'enquête.
Oui, mais l'enquête est intéressante en vrai. Hein. Ils font un parallèle entre le style et l'idéologie du vieux borgne et du petit chauve.
Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
Je dis simplement, une équipe de France avec 8 joueurs noirs, c'est curieux.
C'est une invasion migratoire.
La France, elle subit une vague migratoire phénoménale.
Bon, on va commencer par dire une chose simple, mais qui n'est pas souvent dite dans ces termes-là. Le principal point commun entre Le Pen et Zemmour, c'est que ce sont de gros racistes.
Bah ouais, aujourd'hui, on dirait essayistes controversés, on dirait polémistes sulfureux, on dit qu'ils ont le verbe haut. C'est vrai que raciste, c'est plus simple, on comprend tout de suite.
Ben oui, toute leur vision du monde est structurée autour du fait qu'ils n'aiment pas les Noirs et les Arabes et qu'ils veulent une France blanche.
Bon, évidemment, après, eux, ils vont dire qu'ils sont pas racistes.
Je ne suis pas raciste.
Mais de toute façon, il peut pas être raciste, c'est interdit.
Mais oui, non, ce qui est interdit, c'est de dire des trucs frontalement racistes qui peuvent tomber sous le coup de la loi, l'appel à la discrimination, l'appel à la haine raciale. Quand Zemmour dit
« Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes !»
Ça ne passe pas, il y a des lois qui bornent un peu ce qui peut être dit. Zemmour a été condamné pour cette phrase en 2011. Mais quand le Front National affirme que s'il y a 2 millions de chômeurs, c'est qu'il y a 2 millions d'immigrés de trop, là, c'est légal, là, ça peut se dire sans problème.
Ça va être tout l'enjeu pour Zemmour, comme pour Le Pen, de faire ce numéro d'équilibriste pour produire des discours racistes qui sont diffusables en prime time. Si quand ça rate, on parle pudiquement de dérapage, la plupart du temps, ça passe.
Voilà, et si Éric Zemmour peut se permettre aujourd'hui d'aller aussi loin, c'est parce qu'il a bien regardé comment s'y prenait le vieux.
On va vous donner un exemple. Parce que quand on est obsédé par la pureté raciale, le vrai projet, c'est de renvoyer chez eux les gens qui ne correspondent pas à nos critères ethniques.
Bon bah ça, maintenant, va falloir aller le défendre dans l'espace public, va falloir trouver une justification, un prétexte. Les années 80, c'est l'apparition du chômage de masse. On ne parle que de ça, c'est la crise. Et c'est donc le chômage qui va être invoqué par Le Pen pour rendre acceptable ce qui n'est au fond qu'un projet découlant d'un fantasme de pureté raciale.
Quand il y a crise dans un pays, en particulier grave crise de l'emploi, et qu'il y a des millions de chômeurs et qu'il y a 6 millions d'immigrés, nous disons que l'emploi doit être réservé en priorité aux Français et que si les immigrés doivent partir pour le leur laisser, ceci est dans le fond conforme à l'intérêt national de la France et des Français et même conforme à une justice supérieure.
Le Pen nous laisse libre d'imaginer quelle est cette justice supérieure, d'imaginer sur quoi elle est fondée. Est-ce que c'est sur une hiérarchie des peuples, sur un ordre racial inégalitaire? On ne sait pas, de toute façon tout ça reste allusif.
Qui peut penser un seul instant que l'engagement premier de Jean-Marie Le Pen, c'est la lutte pour l'emploi? Qui peut penser que son projet politique soit avant tout un projet de justice sociale? Certains de ses électeurs, peut-être, mais en tout cas, pas Jean-Marie Le Pen lui-même, ni même les autres membres du Front National. Si Le Pen parlait déjà de remplacement de la population et d'incompatibilité culturelle dans les années 80, Zemmour a depuis passé une étape. Il prend beaucoup moins le temps de s'embarrasser de la question sociale. S'il veut remigrer, déporter une partie de la population, ce n'est plus à cause des tensions sur le marché de l'emploi, mais en raison d'une incompatibilité profonde entre les Français et ceux qu'il considère comme des immigrés.
Oui, il n'a pas le droit de dire qu'il s'agit de préserver la race blanche, il va donc parler de culture européenne, il va parler d'incompatibilité entre l'islam et la République, ce que ne fait même plus Marine Le Pen.
Donc Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen ont des justifications différentes, mais le projet reste le même.
C'est une stratégie depuis 30 ans des gouvernements maghrébins et des gouvernements africains.
Quand vous l'écoutez, est-ce que vous retrouvez des choses qui vous appartiennent ou qui vous sont familières?
Sans doute, oui, mais c'est assez normal que des gens qui pensent la même chose s'expriment de la même manière.
Donc les deux hommes ont la même pensée, mais ce qui change aujourd'hui fondamentalement, c'est que maintenant, l'extrême droite, en la personne d'Éric Zemmour, a une chance d'arriver au pouvoir. Et le vieux Le Pen n'y est pas pour rien, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui.
Le 21 avril 2002, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le candidat de l'extrême droite arrive au second tour. C'est un coup de tonnerre, personne ne s'y attendait, pas même le premier intéressé, Jean-Marie Le Pen. C'est ce qu'explique Azdine Ahmed Chaouche dans son livre « Le testament du diable ». Il décrit un Le Pen de marbre, un Le Pen anxieux, il parle d'un Front national qui ne voulait pas de la victoire. « Rester dans le rôle de l'éternel contestataire, c'est beaucoup plus confortable », dira même Jean-Claude Martinez, un ex-lieutenant du président du FN.
Et oui, la vraie victoire politique de Le Pen, c'est pas 2002, c'est ces décennies de présence médiatique offertes à un homme indésirable, marginal, issu d'une famille politique dont la République ne voulait plus entendre parler. À la base, personne ne souhaitait voir Le Pen devenir ce personnage de premier plan dont le souvenir hante encore tout le paysage politique français.
Le phénomène Le Pen, c'est une création télévisuelle. Avant ça, c'était juste un agitateur, un vétéran de l'Algérie qui avait réussi à rassembler sous la bannière du Front National toute une galaxie de formations groupusculaires dont il était étonnamment le visage présentable.
Le Front National se crée avec une idée qui s'appelle le compromis national. C'est l'idée qu'il faut unir toutes les familles de l'extrême droite derrière un mec à l'époque qui est le plus modéré à peu près d'entre eux, il s'appelle Jean-Marie Le Pen. C'est un modéré parce que le Front National, c'est les collabos, c'est les très très durs qui se regroupent derrière Jean-Marie Le Pen.
À côté des collabos, des néo-nazis et des royalistes, Jean-Marie Le Pen, il fait propre. Il a déjà été élu député sous la 4ème République, puis avant ça, c'était un étudiant en droit d'extrême droite assez classique.
Hein. Ouais, un étudiant en droit, quoi.
Donc dès le départ, dès les années 50, avant de devenir le diable qu'on connaît, il jouait déjà le jeu des institutions, contrairement à d'autres énergumènes qu'il soutenait et qui, eux, rêvaient encore à voix haute de la fin de la République.
Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate ?
Oui, certainement. Et j'ai même argumenté bien souvent contre certaines écoles philosophiques de droite qui contestent la démocratie comme moyen de gouvernement. Et j'ai dit, je suis dans le fond un démocrate churchillien, c'est-à-dire que je me réfère au fameux aphorisme de Churchill disant « la démocratie c'est probablement un très mauvais système, mais je n'en connais pas d'autre ».
Jean-Marie Le Pen est donc celui qui, dès son arrivée à la tête du FN, veut faire entrer l'extrême droite dans la République, lui donner une place dans le jeu des partis républicains.
Et ça, ça va pas du tout de soi pour une famille politique comme l'extrême droite. Hein. On y trouve des royalistes qui appellent la République la gueuse et qui voudraient sa chute, on trouve des nostalgiques de Vichy, on trouve des Waffen-SS de la division Charlemagne. Bref, Le Pen, à son époque, c'est déjà une version soft de ces gens-là.
Oui, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen n'a pas fait la Seconde Guerre mondiale, et il va le rappeler souvent, hein. Il a pas eu le temps d'être collabo, il avait 14 ans.
Mon nom ou ma photographie sont très souvent associés à des défilés de l'armée allemande, ou à la photo d'Hitler, ou à d'autres photos du même genre. Jean-Marie Le Pen n'a strictement rien à voir avec tout cela, et le nom de Le Pen est inscrit sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer, alors que celui de Georges Marchais n'est jamais été inscrit que sur les fiches de paye à Augsbourg de l'usine Messerschmitt pendant la guerre.
Oui, il parle du monument aux morts parce que son père a sauté sur une mine dans l'Atlantique en 1942.
Il était à la guerre ?
Non, il était à la pêche dans un chalutier, voilà. Mais il est quand même sur le monument aux morts.
Bon, on vous a dit que Le Pen, c'était le visage présentable des fachos, mais ça reste un facho. Il est anti-avortement, homophobe, pour la peine de mort.
Ah bah c'est un facho, mais dans la République. Bon, sur tous ces sujets, il n'était pas si éloigné que ça des positions de la droite traditionnelle, mais il poussait toujours ça un cran plus loin, tout en restant dans le cadre républicain.
Ça, c'est le premier problème de Jean-Marie Le Pen. Il est le représentant d'un courant, d'une famille politique qui a voulu faire tomber la République le 6 février 1934 avec les ligues fascistes, qui a réussi à faire tomber la République avec le régime de Vichy en 1940 et qui a provoqué des attentats pendant la guerre d'Algérie, y compris contre le général de Gaulle avec l'OAS.
Donc la question de savoir si Jean-Marie Le Pen est un vrai démocrate, c'est une interrogation sincère de la part de ces journalistes. Dans leur tête, pour eux, l'extrême droite, c'est toujours les putschs, les bagarres de rue et les attentats.
D'ailleurs, cette émission-là, L'heure de vérité, elle était prévue pour être diffusée le 6 février 1984, une date qui n'est pas anodine. Patatras ! On finit par se rendre compte que c'est le 50e anniversaire des émeutes sanglantes du 6 février 1934 qui virent l'extrême droite tenter de prendre d'assaut le Palais Bourbon en criant « Abat la République parlementaire ». Cette anecdote nous est rapportée dans cet article d'Antoine Perrault pour Mediapart. Finalement, l'émission en question sera donc décalée d'une semaine au 13 février 1984.
Donc ce qui est intéressant là, c'est qu'à l'époque, pour les commentateurs, le lien entre Le Pen et les putschistes de 34 est évident. Le Pen va donc devoir essayer de les rassurer.
La thèse de l'article d'Antoine Perrault, c'est que cette émission, c'est un tournant dans la carrière du dirigeant frontiste, puisqu'il s'agit de sa première invitation dans une grande émission politique du service public.
Alors c'était un grand rendez-vous politique, hein, L'heure de vérité. Vous connaissez peut-être déjà le générique, vous avez peut-être déjà vu ce truc-là, ça faisait, pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je vais vous le faire à la bouche.
Je pense que c'est mieux si on a des problèmes de droit d'auteur. Arrête. Mais comment il s'est retrouvé dans cette émission, le Borgne ? Eh ben c'est grâce à Tonton, c'est grâce à Mitran. Tu l'as connu, toi, Mitran ?
Ah bah, c'était mon président de quand j'étais petit. Nous, on faisait la boîte à camembert, hein, et hop, c'est la caquette à Mitterrand.
Eh ben nous, c'était la caquette à Jacques Chirac.
Ça, c'est fou, ça. Bon, toujours dans le testament du diable, on apprend une histoire intéressante. On apprend que Jean-Marie Le Pen a écrit lui-même à Mitterrand en 1981 pour demander à avoir plus de temps d'antenne.
Dans le courrier, j'ai indiqué au président que nous étions victimes d'ostracisme dans les médias, n'est-ce pas ? À titre d'exemple, nous venions de faire un congrès et il n'y avait pas eu un seul mot, un seul écho dans la presse.
Réaction immédiate du président socialiste. Pour emmerder la droite, il va le faire inviter dans plusieurs émissions.
Deux émissions de 5 minutes sur la 2 et la 3, d'abord.
Puis, selon une correspondance révélée par les auteurs de ce bouquin, Mitterrand a imposé la présence de Le Pen sur TF1 en 82.
Et un des tournants de la banalisation de Le Pen à la télé, c'est donc l'heure de vérité en 1984, où Le Pen va avoir 1h20 pour montrer à quel point il est un homme politique respectable.
Et il va y aller 9 fois à l'heure de vérité. Alors qu'au début, sa présence sur le plateau a provoqué des résistances.
Cette invitation, vous le savez, elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a actuellement devant cette maison des manifestations. Le parti communiste la considère comme indécente et appelle au boycott. L'humanité écrit de vous « Cet homme est dangereux parce que la politique qu'il défend est dangereuse ». Et le Nouvel Observateur ajoute « Il aurait mieux valu l'ignorer ».
Noterez qu'ici on parle des résistances venant de la part des citoyens, des partis, des syndicats, des associations. Les journalistes, eux, étaient présents sur le plateau, ils ont fait leur travail, et ils l'ont fait avec d'autant plus d'entrain que la présence de Le Pen leur offrait certains avantages.
Premièrement, le dispositif leur permettait en effet de se poser en repère moral. Ils ne vont pas lâcher Le Pen sur son antisémitisme, sur ses liens avec le reste de l'extrême droite, ils vont le confronter à certaines de ses citations les plus accablantes. Bref, le rempart, c'est eux, ils font barrage. Sauf que, trop tard, hein, Le Pen est déjà dans le salon de millions de Français.
Deuxième avantage pour les journalistes, les gens veulent voir le monstre. Et les audiences sont excellentes, d'autant plus que le monstre est un bon client. Il a de la répartie, il esquive les chausse-trappes, il a toujours le bon mot, il sait créer l'événement, quitte à détourner l'émission et à esquiver certaines questions. Comme lors de ce moment étonnant où Jean-Marie Le Pen se lève et prend une pause solennelle.
En mémoire de tous ceux qui sont tombés, des dizaines de millions d'hommes tombés dans le monde sous la dictature communiste et de avoir une pensée fraternelle à l'égard des millions d'hommes qui sont dans les camps et au goulag.
Moi, je suis journaliste et je continue à poser mes questions, si vous le voulez bien. Je voudrais aborder les thèmes économiques.
Voilà, ça, c'était la première étape de la quête de respectabilité de Jean-Marie Le Pen. Il fallait se faire inviter par les journalistes, toujours créer l'événement en essayant, malgré tout, de ne jamais déraper. Les provocations étaient nombreuses, mais la plupart du temps, elles étaient maîtrisées.
Quand soudain, en 87...
Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Quand Jean-Marie Le Pen sort ses propos révisionnistes, eh ben, ça n'a rien d'un calcul.
Nous, ce qu'on a lu, c'est qu'il n'avait pas envie d'y aller à cette émission. Il avait 39 de fièvre, il était crevé et il ne s'attendait pas du tout à ce qui allait suivre.
En l'occurrence, une shitstorm.
C'est la colère quasi générale en France à la suite des propos de M. Le Pen qui a mis en doute l'existence des chambres à gaz.
Il a dit « je n'ai pas vu les chambres à gaz ». On sait très bien que c'est toute la thèse des révisionnistes. On est horrifiés. Et on n'est même pas horrifiés, c'est une immense douleur.
Vous pensez que c'est une gaffe ou une déclaration volontaire ?
Je pense que M. Le Pen est trop habile pour faire des gaffes. Je pense que ce qu'il a dit, il l'a médité au préalable.
Et pourtant non, hein. Comme on vous l'a dit, ce n'était visiblement pas préparé.
Mais il le pensait, ce qu'il a dit.
Oui, mais il n'avait pas prévu de le dire.
En 40 ans de vie politique, c'est la plus grosse connerie que je n'ai jamais sortie, n'est-ce pas ?
Ça, il l'aurait dit à l'époque à son conseiller, Laurent de Saint-Affrique.
Mais voilà, Le Pen ne peut plus reculer. Des antisémites et des révisionnistes, il y en a plein au Front National. Et sa base militante ne comprendrait pas qu'il s'agenouille à la première injonction du système.
Alors, Le Pen se défend. Il va crier au complot.
J'accuse le lobby de l'immigration, véritable syndicat anti-Le Pen, d'avoir organisé et conduit contre moi ce procès en sorcellerie.
Il dit qu'il n'est pas antisémite, il va même défendre la thèse selon laquelle le tollé qui a suivi sa déclaration a été orchestré par le Mossad et par l'État d'Israël. C'est même pas une vanne.
Après cet épisode, Jean-Marie Le Pen ne peut plus envisager de se fondre pleinement dans le paysage politique de la Ve République. Il ne peut plus envisager d'alliance avec la droite traditionnelle, comme il l'avait fait quelques années auparavant à Dreux. L'affaire du point de détail va le condamner à accepter une certaine forme de marginalité.
Mais très vite, une idée va faire son chemin. Jean-Marie Le Pen va comprendre que ses dérapages, contrôlés ou non, lui permettent d'occuper l'espace médiatique. Même si c'est en mal, on parle de lui partout.
Du coup, dans les années qui vont suivre, on va avoir le droit à de nombreuses petites phrases, cette fois-ci mûrement réfléchies, des petites phrases qui, à chaque fois, vont repousser les limites de ce qui peut être dit dans l'espace public.
Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu.
Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique.
Le scénario est bien rodé. Après chaque petite phrase, l'indignation devient générale et Le Pen a le droit à son petit sujet aux 20h. systématiquement.
La Commission nationale consultative des droits de l'homme a qualifié de politiquement abjecte les dernières déclarations de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races. Le point avec Javit Amber et Guylaine Chenu.
Jean-Marie Le Pen persiste et signe. Je ne crois pas à l'égalité des races, une phrase qu'il a répétée hier soir à Toulon.
Mais cette stratégie a des limites que beaucoup vont pointer du doigt à partir des années 90, à commencer par un jeune journaliste du Figaro que vous reconnaîtrez peut-être.
Est-ce que vous ne regrettez pas votre attitude dans les années 80, vos bons mots qui vous ont un peu mis à la marge de la société politique française et qui vous ont empêché de rentrer dans une grande alliance à droite?
Écoutez, je crois que ces bons mots étaient un simple prétexte pour persécuter le national que je suis.
Zemmour n'est pas le seul à critiquer la méthode Le Pen. Bruno Maigret, un de ses lieutenants, va même tenter de prendre sa place à la tête du FN avant de partir avec armes et bagages pour fonder le MNR qui se présentera au premier tour de l'élection de 2002.
Il y avait deux lignes politiques à l'époque. La mienne, c'était de faire du Front National un grand parti, capable de gouverner, dédiabolisé, qui puisse passer des alliances et se développer. Et puis Le Pen qui faisait de la provocation, qui considérait le Front National comme faisant partie de son patrimoine personnel et qui voulait continuer d'en jouir tranquillement.
La fronde de Bruno Maigret a fait long feu et c'est bien Jean-Marie Le Pen qu'on va retrouver donc au second tour de l'élection présidentielle en 2002 face à Jacques Chirac.
D'ailleurs, tout le monde a oublié Maigret alors que Jean-Marie Le Pen a durablement marqué les esprits.
Si les partis politiques lui tournaient le dos et le méprisaient, les journalistes, eux, accouraient pour documenter ses tribulations et ses errements. Certains de ces journalistes, comme ici Yves Mourouzi, ont même parfois contribué à le rendre sympathique en l'interviewant chez lui, dans Questions à domicile, le cul sur le bureau. On est pourtant là en 88, après l'affaire du point de détail.
Le bonheur, c'est d'être riche. Non, sûrement pas. Je sais pas ce que c'est que d'être riche, d'abord, parce que...
Vous l'êtes ou pas?
Non, mais... Oh, non.
Je sais pas. Vous pouvez me sentir ce que vous avez dans vos poches. Écoutez, c'est un peu indiscret, non?
Et c'est là qu'on voit que Karine Le Marchand n'a rien inventé.
Bonjour Marine.
Bonjour Karine.
Salut Yael.
Salut Christelle.
Pendant le confinement, vous avez fait quoi?
J'ai bossé, j'ai bouquiné et j'ai passé le diplôme d'éleveuse de chats.
Le père Le Pen avait un véritable pouvoir de séduction, y compris auprès de journalistes qui lui étaient hostiles, et dont certains ont fini par admettre qu'ils avaient eu avec lui une sorte de syndrome de Stockholm. Ce fut le cas de Serge Moiti, un journaliste pourtant juif et de gauche.
Pour lui, Le Pen est cultivé, intelligent, un excellent conteur.
Les deux hommes passent du bon temps ensemble.
J'avoue, je me suis marré.
Le Pen promet qu'il va aller casser du Viet. On rit, on ne devrait pas.
Au soir du 21 avril 2002, Moati est le seul journaliste présent aux côtés de Le Pen.
Mes images feront le tour du monde. Atteint de plein fouet par le fameux syndrome de Stockholm, je suis content.
Jean-Marie Le Pen n'est jamais parvenu au pouvoir, mais en près de 60 ans de vie politique, et particulièrement à partir des années 80, il aura fait sauter de nombreuses digues.
La digue médiatique d'abord, avec le coup de main originel de Mitterrand, il a réussi à s'imposer sur les plateaux télé, malgré les réticences des débuts, malgré les protestations de la société civile, et grâce à la complaisance de journalistes qui voyaient en lui une curiosité qu'on adorait détester.
La deuxième digue que Le Pen a réussi à faire sauter, c'est la digue idéologique. Il a réussi à imposer ses thèmes. Sa vraie victoire en 2002, par exemple, c'est pas d'avoir été qualifié pour le second tour, c'est d'avoir imposé l'insécurité comme thème majeur de la campagne présidentielle.
Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on ne parle plus que d'identité, d'islam, d'immigration ou de sécurité. Eh bien, c'est lui qui, pendant des années, a porté systématiquement ces thèmes dans les campagnes électorales ou pendant les débats télé.
Et à chaque fois qu'il tirait le débat vers l'extrême droite, eh bien, la droite lui emboîtait le pas, parce que le Front National avait un électorat dont la droite avait besoin.
Certains se sont d'ailleurs inspirés du style Le Pen pour séduire les électeurs à grands coups de propositions sécuritaires et de petites phrases.
Et de trucs racistes.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Une petite phrase et une heure de visite.
Cette influence des idées de l'extrême droite dans le débat public, Robert Badinter l'avait qualifié en 97 de l'eupénisation des esprits.
Le nom de Jean-Marie Le Pen est devenu un adjectif pour qualifier la progression d'idées racistes. Si ça, c'est pas une preuve de son influence sur le débat public, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Seulement, imaginez aujourd'hui un autre facho qui arriverait après tout le travail de sape effectué par le vieux Le Pen. Il arriverait dans un système politique et médiatique droitisé, qui a perdu beaucoup de ses repères, qui n'a plus de système immunitaire.
Et mieux, cette personne trouverait même des chaînes de télévision ou des radios qui diffusent et favorisent chaque jour les idées de l'extrême droite.
En 84, à l'époque de l'heure de vérité, les propos de Jean-Marie Le Pen sont encore perçus comme intolérables. On lui fait la leçon, on fait même son procès.
Je pensais que M. Servan-Schreiber était là à raison de ses compétences économiques, et je m'aperçois que c'est un procureur de l'antiracisme.
Seulement aujourd'hui, il n'y a plus de procureur. Là, aujourd'hui, il n'y a plus que des passe-plats. Alors on commente sur les plateaux les sorties sur la remigration, le grand remplacement, les immigrés qui sont tous des assassins et des violeurs. On commande tout ça comme si on parlait de la météo.
On a pu entendre que le FN ne pouvait pas arriver au pouvoir précisément à cause de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, sa fille a dû s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, si Éric Zemmour est aux portes du pouvoir, c'est peut-être bien grâce à Jean-Marie Le Pen et à son travail patient et méthodique.
Bon, Le Pen, il va bientôt crever. Hein. Il n'aura jamais été président. Mais ses mots et ses thèmes ont durablement pourri le débat politique dans ce pays. L'héritage de Le Pen, c'est pas un nom, un parti ou une stratégie, non. L'héritage de Le Pen, c'est cette ambiance de merde là, que vous sentez là, en ce moment.
Le Pen, il a rempli sa mission. L'extrême droite, elle est vraiment entrée dans la République, elle est vraiment entrée dans les institutions. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la République peut survivre à l'extrême droite ? Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode des Portraits. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne YouTube de Blast.
Voilà, et si ça vous a pas plu, vous pouvez cliquer sur le pouce rouge, mettre un commentaire, vous pouvez même faire une vidéo de réponse, hein, allez-y, on sent que ça vous fait du bien. Hein, de toute façon, nous, on s'en fout, on n'est pas là pour se faire des amis. Allez, à la prochaine fois.
Je pense que c'est mieux si on a des problèmes de droits d'auteur. Arrête.